une fois par mois, vous écoutez Billets d'Afrique, une émission où on ne parle pas que d'Afrique.
Regarde comme au fil des siècles cette histoire se répète. C'est toute une légion qui se lance à notre conquête.
Une émission où l'on parle de colonialisme. Parce que ça manque dans le paysage.
Territoire occupé.
Parce que si on veut que le monde change, il va falloir changer les règles du jeu.
Comment veux-tu qu'on s'appelle lorsque l'on trouve si honoré?
Billets d'Afrique, troisième saison, Marie au micro. Valou pour la volonté initiale et le soutien. Il y a tant à dire qu'il faut choisir. Les contenus proposés sont inspirés des revues mensuelles et actualités d'associations et ONG telles que Survie, AFASPA, WSRW, Observatoire des armements et d'autres selon les émissions. Pour ce mois d'octobre, les textes sont inspirés des revues Billets d'Afrique de Survie des mois de juin à septembre et de l'ONG WSRW. Exit Orano. Orano a perdu le contrôle opérationnel de sa mine d'arlite au Niger l'année dernière. On en a parlé, et 1300 tonnes de concentré d'uranium qui n'avaient pas pu être exportées restent bloquées sur le site de sa filiale, la Somaïr, pour une valeur marchande de 250 millions d'euros. En difficulté financière, la junte nigérienne a entamé des négociations pour vendre le stock à la Russie ou à la Chine, tandis qu'Orano a demandé un arbitrage au CIRDI, un tribunal international privé auquel ont recours les multinationales. Par ailleurs, en visite en mars au Niger, le directeur général de l'Agence internationale à l'énergie atomique a déclaré avoir apprécié le professionnalisme, la transparence et la coopération observées à Arlit. Un véritable pied de nez pour la firme française. Dernier épisode du feuilleton. Les locaux d'Orano à Niamey ont été perquisitionnés le 5 mai 2025 par la sécurité extérieure nigérienne, puis fermés et placés sous scellé, tandis que le représentant nigérien de l'entreprise sur place était arrêté. On ne sait pas si cette mesure fait suite à la plainte des organisations de la société civile qui reprochent à une autre filiale d'Orano, la Cominac, d'avoir suspendu les travaux de réaménagement du site après avoir fermé sa mine en 2021. Alors que l'État nigérien n'est qu'un actionnaire minoritaire depuis des décennies à hauteur de 36%, la prochaine étape logique serait la nationalisation de la production de l'uranium au Niger. Salon international de la mort. On y voit une main d'enfant tendue vers celle d'un astronaute. Clin d'œil attendrissant au plafond de la chapelle Sixtine, l'affiche 2025 du Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget suggère qu'on y vend du rêve, un vernis cosmique pour dissimuler qu'on y vend en réalité la mort. Du 16 au 22 juin dernier, l'un des plus grands marchés mondiaux d'armes exposait des biens à double usage, émerveiller les gamins aux portes de Paris, exterminer des générations entières à Gaza. Insensible comme en 1994 au Rwanda à la dénonciation d'un génocide dont il permet lui-même la réalisation matérielle et avare de protection envers ses ressortissants arrêtés illégalement à bord du bateau humanitaire Madeleine, l'État français s'est soudain rappelé l'existence du droit pour cacher à la vue, la veille de l'ouverture du salon, 5 stands israéliens, les dissimulant in extremis par des bâches noires. C'est le résultat des pressions populaires et syndicales des derniers mois. Les entreprises souhaitant poursuivre leur implication dans un effort de guerre génocidaire ont cependant toujours eu le loisir de réseauter avec Israël, via le CIBAT, le bureau en charge de la coopération internationale du ministère de la Défense israélien, épargné lui par cette opération de dissimulation. Derrière ce coup de com', la France reste complice de la campagne d'extermination et de colonisation que mène Israël dans les territoires palestiniens. Complice politiquement et économiquement de par la matrice coloniale et islamophobe de ses élites. Si les courageux dockers de Marseille ont stoppé début juin l'exportation vers Israël de matériel militaire qui aurait pu être utilisé contre des civils à Gaza, les influentes entreprises tricolores de l'armement ont toujours pignon sur rue au Bourget. L'impunité perdure elle aussi. L'hypocrisie est d'autant plus criante que ces dernières semaines, la justice française a rejeté les demandes coordonnées par le collectif Droits et Mouvements Sociaux, créé pour que les associations puissent s'emparer des outils juridiques, et porté par Survie, Al-Haq, l'UJFP, Attaque France et Stop Fueling War, d'exclure du salon des entreprises impliquées par des crimes internationaux, en particulier à Gaza, mais aussi en Ukraine et au Soudan. À l'image de l'action tenace de Survie pour une reconnaissance juridique des complicités françaises dans le génocide des Tutsis au Rwanda, les associations de Mandresse, condamnées par le tribunal à verser 9 000 € de frais de justice aux organisateurs du salon, qui a engrangé 150 milliards de dollars de contrats en 2023, sont déterminés à ne rien lâcher dans cette affaire et épuiseront tous les recours disponibles dans le droit français. Cette impossibilité de faire appliquer le droit aux autorités et multinationales qui composent le complexe militaro-industriel a le mérite de dévoiler le vrai visage du Salon du Bourget, vitrine de la puissance impérialiste française scélérate et d'un système qui prospère sur une hiérarchisation des vies. Face à la banalisation des crimes d'État, des milliers de personnes se sont réunies aux portes du Bourget du 20 au 22 juin avec l'objectif d'enrayer l'industrie de la mort et de mettre en lumière les chaînes de responsabilité assassines à l'origine des guerres impérialistes. Un engagement qui s'inscrit dans l'esprit de François-Xavier Verschave qui, lui, appelait à donner valeur de loi au devoir de sauver les vivants. Survie au sein de la coalition Guerre à la guerre entend maintenir une pression constante pour rompre le silence assourdissant sur la France-Afrique et l'ensemble des complicités françaises de génocide, de crimes internationaux et néocoloniaux. Texte de Camille Zaffre. France-Afrique du Nord. L'actuelle crise diplomatique entre d'un côté l'État français, la droite et l'extrême droite et de l'autre le pouvoir algérien apporte un nouvel éclairage sur le racisme et le néocolonialisme français dans son rapport à l'Algérie, mais aussi à un espace plus grand, l'Afrique du Nord. Cette région, à la fois africaine, arabe, musulmane et juive, concentre toutes les ignorances et les racismes. Le 30 mars dernier à Paris, lors d'une conférence intitulée « D'ici et de là-bas, les liens entre la France et l'Afrique décryptée », organisée par Survie, l'économiste Omar Bandera déclarait « L'Algérie est un concentré de France-Afrique ». Si les rapports avec l'Algérie sont très conflictuels et si les propos racistes du clan Le Pen ou de Rotaillot sur les Algériens traduisent de vieux relents coloniaux, une forme d'amnésie traverse toute la société française à propos de la colonisation de ce pays. Pourtant, la transmission de la mémoire avance. Malika Rahal, interviewée par Mediapart le 8 mai 2025, citait une survivante de la bataille d'Alger en 1956. Tous les soirs, il y avait des rafles de l'armée française et il y avait des hommes qu'on ne revoyait jamais. La directrice de l'Institut d'histoire du temps présent propose ainsi désormais une historiographie qui ne se base pas seulement sur les archives militaires, mais inclut le point de vue des victimes. Depuis 2 ans, les plus hautes autorités françaises ont affirmé leur soutien, ou même leur soutien inconditionnel, donc le premier c'était Macron, le deuxième Yael Braun-Pivet, à l'actuel régime génocidaire israélien. Et la France arme même le génocide, voire l'Observatoire des multinationales, en janvier 2025. les commémorations des génocides des Juifs et Juives et des Roms d'Europe et des Tutsis du Rwanda n'ont servi à rien. L'incapacité de la France à regarder en face son histoire, la plus personnelle, n'est-elle pas l'une des causes de cette complicité répétée? Les historiennes et historiens s'accordent sur le chiffre de 900 000 morts en Algérie entre 1830 et 1870, soit un tiers de la population. La conséquence d'une guerre de conquête menée avec une violence extrême, dans laquelle de nombreux dirigeants politiques et militaires français appelèrent à massacrer la population et exprimèrent une haine délirante pour la culture arabo-musulmane. L'historien Olivier Lacour Grandmaison parle à propos de cette conquête d'extermination. De là à parler de génocide, certains n'hésitent pas, à l'instar des historiens William Gallois et Youssef Girard ou de l'anthropologue Yazid Ben Houné. Ce massacre de masse marque en tout cas le point de départ de la colonisation de l'Afrique et il est l'un des actes fondateurs de l'impérialisme français. En 2025, l'État français ne veut toujours pas reconnaître son histoire en Algérie et il nous condamne à la revivre avec lui, tout comme il condamne Gaza à l'abandon. En quête de ressources en Afrique du Nord, il continue de s'accaparer et de polluer la terre, comme avec les méga-projets d'hydrogène de Tunisie ou au Sahara occidental, portés par une Union européenne qui s'aligne de plus en plus sur l'entreprise néocoloniale. Il continue de corrompre les bourgeoisies nationales qui se partagent les maigres préhendes laissées par les filiales des multinationales, organisent la répression des voix contestataires et servent de gendarmes des frontières. Il est l'un des acteurs principaux du commerce militaro-industriel qui déverse avions, navires et munitions dans les escarcelles du Marzen, des chefs de guerre libyens, du maréchal Sissi ou de l'armée génocidaire israélienne. En Afrique du Nord, les peuples étouffent et cognent à la porte de l'histoire, du Maroc à l'Égypte et jusqu'en Palestine, décolonisons. Texte de Ali Kader. Les migrants subsahariens au cœur des dérives des politiques migratoires. La présence des migrants subsahariens en Tunisie fait depuis quelques années l'objet d'un débat intense, trop souvent alimenté par des informations erronées ou instrumentalisées. Enquête sur le terrain du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, FTDES. Si la présence des migrants subsahariens en Tunisie n'est pas un phénomène récent, celle-ci s'est intensifiée de manière significative à partir de 2011 sous l'effet de plusieurs dynamiques régionales. D'une part, le déclenchement de la guerre en Libye a poussé des dizaines de milliers d'entre eux à franchir les frontières. D'autre part, la levée de l'obligation de visa pour les ressortissants de plusieurs pays africains non maghrébins, intervenue en 2012 et 2015, a considérablement facilité la mobilité vers la Tunisie. Cette dynamique s'inscrit dans un contexte régional marqué par un durcissement des politiques migratoires. En Algérie, les autorités multiplient rafles, détentions et expulsions collectives de personnes en situation irrégulière. En Libye, la situation est encore plus critique. Les migrants y subissent arrestations arbitraires, violences systématiques et détentions prolongées dans des centres insalubres, dans un climat de guerre civile persistante. Dans ce contexte, la Tunisie devient non seulement un pays de transit, mais aussi un espace de refuge temporaire ou prolongé. À cela s'ajoute une pression croissante des pays européens visant à déléguer aux pays du Maghreb le contrôle de la migration dite irrégulière. Cette externalisation des politiques migratoires a renforcé la précarité des migrants piégés dans un espace devenu progressivement verrouillé. Depuis quelque temps, on observe cependant un glissement d'une présence jusque-là plus ou moins acceptée socialement, voire justifiée politiquement, vers une présence de plus en plus contestée. Un discours politique, y compris au plus haut niveau du pouvoir et médiatique, imprégné de racisme et de xénophobie, s'appuyant sur la théorie complotiste du grand remplacement, a encouragé un rejet virulent dans une partie de la population, dans un contexte de crise économique aiguë et de concentration des migrants subsahariens en situation irrégulière dans les principales villes littorales du pays. Depuis plus de 2 ans, des dizaines de milliers de migrants subsahariens en Tunisie subissent diverses formes de discrimination et de violence, interdiction d'accès au travail et au transport, expulsion en dehors des villes et villages, arrestation arbitraire ou encore les refoulements vers les zones désertiques à la frontière libyenne ou algérienne. Contrairement au discours politique dominant tant au nord qu'au sud de la Méditerranée, qui tend à réduire les dynamiques migratoires subsahariennes à l'action de réseaux de traite des êtres humains et de criminalité organisée, l'enquête menée par le FTDES au cours du premier semestre 2024 auprès de 379 personnes originaires d'Afrique subsaharienne présentes sur le territoire tunisien révèle une réalité bien différente. Cette population migrante est à la fois diversifiée, jeune et relativement bien instruite, marquant ainsi une évolution notable. Elle est issue de plus de 20 pays de différentes régions du continent africain, avec une surreprésentation de ceux traversant les tensions politiques et des conflits armés. Bien que la moyenne d'âge des personnes enquêtées soit relativement basse, 26 ans, on observe l'émergence de nouvelles catégories de migrants, notamment les mineurs de moins de 18 ans et les personnes de plus de 40 ans, près de 10% du total à eux deux. On constate aussi une féminisation progressive du phénomène migratoire, 27% de femmes. Dernier changement, une proportion importante de migrants a atteint l'enseignement supérieur, 28,5%. Les départs du pays d'origine ou de résidence s'expliquent pour 70% des enquêtés par la quête de sécurité et de paix et le choix de la Tunisie par la perspective d'un transit vers l'Europe et ou la possibilité de bénéficier de la présence d'organismes internationaux basés en Tunisie, notamment le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'Organisation internationale pour les migrations. L'enquête révèle aussi l'inefficacité des politiques visant à endiguer les mobilités en provenance d'Afrique subsaharienne, notamment celle annoncée en juillet 2023 dans le cadre d'un accord avec l'Union européenne. En réalité, ces mesures ont eu pour principal effet non pas de réduire les flux, mais d'aggraver les conditions de vie des migrants en Tunisie. Confrontés à un contexte de plus en plus hostile, nombre d'entre eux ont été contraints de précipiter leur départ vers l'Italie, souvent au prix de risques majeurs pour leur vie. 63% affirment connaître des migrants ayant péri en mer ou disparu à la suite du naufrage de leur embarcation. L'enquête du FTDES met également en lumière des données particulièrement préoccupantes concernant les violations des droits des migrants subsahariens en Tunisie, y compris de la part de certains organismes internationaux. Ces derniers, censés assurer protection et assistance, semblent s'être partiellement désengagés de leurs responsabilités, laissant de nombreux migrants livrés à eux-mêmes dans un contexte de grande vulnérabilité et d'instabilité croissante. Texte de Zoubeir Ben Janet. Stop à la pollution néocoloniale. Tribune internationale de soutien au mouvement Stop Pollution de Gabès dans le sud de la Tunisie, dont Survie est signataire aux côtés d'une dizaine d'organisations et de nombre de personnalités. Les régions tunisiennes de Gafsa et Gabès subissent depuis des décennies les pollutions catastrophiques provoquées par l'industrie du phosphate, dans lesquelles la France a une responsabilité historique. En 2017, sous la pression des mobilisations du collectif Stop Pollution à Gabès, l'État tunisien avait pris des engagements pour limiter la pollution. Non seulement le président Kais Saied les a annulés, mais sous la pression de l'Europe et des multinationales comme Total et Eni, il vient d'annoncer dans les mêmes régions le lancement de l'industrie de l'hydrogène vert. Ces projets s'insèrent dans le Green Deal européen et dans la recherche d'une alternative au gaz russe. Contrairement à la couleur annoncée, ces projets vont faire peser sur les pays d'Afrique du Nord, comme la Tunisie, le très lourd coût environnemental des besoins énergétiques de l'Europe. Les organisations et citoyennes et citoyens européens signataires de cette tribune apportent un soutien au collectif Stop Pollution de Gabès qui lutte en Tunisie contre ces décisions. Nous ne pouvons pas rester silencieuses et silencieux car les industries de l'hydrogène et du phosphate sacrifient les terres de la Tunisie et la santé des Tunisiennes et Tunisiens au nom de notre consommation énergétique et de l'agro-industrie chimique. Les méga-projets d'hydrogène annoncés par le ministère tunisien de l'Industrie et co-rédigés avec l'agence de développement allemande GIZ prévoient déjà au moins l'accaparement de 500 000 hectares de terre et de 16 millions de mètres cubes d'eau par an, l'équivalent de la consommation de 400 000 Tunisiens. La colonisation française a lancé l'industrie du phosphate dès la fin du 19e siècle pour fabriquer des engrais pour l'agriculture intensive et des détergents. Le déchet du phosphate, le phosphogypse, radioactif et bourré de métaux lourds, pollue l'eau et provoque massivement des maladies comme le cancer. En Europe, à partir des années 1980, les mines de phosphate ont été fermées suite à des études qui démontraient leur danger pour la santé et la nature. Mais en Afrique, les mines sont toujours en activité. Toute l'industrie du phosphate et les rejets de phosphogypse se sont concentrés en Tunisie, au Maroc, au Sahara occidental et au Sénégal. Depuis mars 2025, Kaïs Saïd a même retiré le phosphogypse de la liste des substances dangereuses. Une fuite en avant vers toujours plus de pollution, d'empoisonnement des populations et du vivant dans son ensemble. Et la pollution touche encore l'Europe. En effet, l'utilisation du phosphate comme engrais ou comme complément alimentaire pour le bétail est l'une des sources du phénomène d'eutrophisation de l'eau et des pollutions aux algues vertes. C'est aussi la première cause de contamination au cadmium qui cause cancer, ostéoporose, troubles rénaux ou infertilité. C'est donc un problème international de pollution et si les dégâts les plus visibles sont dans le sud, dans les régions d'extraction, l'Europe n'est pas épargnée. L'un des principaux clients de la Tunisie et qui produit sur place des centaines de milliers de tonnes d'engrais phosphatés par an est la multinationale française Roulier. Les autorités françaises sont au courant de l'activité de Roulier qu'elles félicitent régulièrement pour ses profits, tout comme elles connaissent bien les pollutions, puisque c'est la France qui a construit les premières infrastructures de l'industrie chimique tunisienne dans les années 1950, à la fin de la période coloniale. L'État français est un grand spécialiste des scandales de santé. Quand ce n'est pas chez nous, en Europe, qu'il en provoque, c'est chez nos voisins africains et arabes qu'il les exporte. Mais en plus de la pollution déjà existante, l'État tunisien a annoncé la construction à Gabès d'une usine d'ammoniac, un gaz ultra polluant et très explosif, fabriqué à partir d'hydrogène et qui sert principalement de matière première pour fabriquer des engrais et du carburant de manière croissante. Cette usine est la première étape de méga-projets qui seront menés par des multinationales européennes en vue d'exporter vers le vieux continent des millions de tonnes d'hydrogène brut ou sous forme d'ammoniac. Alors que le mouvement Stop Pollution avait obtenu l'arrêt de l'extension de la zone industrielle de Gabès, les besoins énergétiques de l'Europe dans un contexte de guerre entre impérialismes en ont décidé autrement. Aujourd'hui, il est temps que cesse la pollution néocoloniale. Les États et les multinationales européennes impliquées doivent rendre des comptes. Les signataires de la tribune réclament en Tunisie comme partout en Afrique l'arrêt des rejets de phosphogypse. Au même titre que tous les citoyens du monde, les citoyens africains ont droit à un environnement propre, sain et durable. Et pour tous les projets industriels européens, les signataires de la tribune réclament une réelle concertation qui inclut les organisations impliquées dans le respect des droits sociaux et environnementaux et représentatives des populations locales et la mise en place de mécanismes de contrôle des multinationales en termes de responsabilité environnementale vis-à-vis des populations locales, de leur environnement et de l'ensemble du vivant. Une entreprise publique française voudrait produire de l'énergie au Sahara occidental occupé. La ville française de Dreux envisage d'ignorer une décision de justice française et de s'engager dans une opération de production d'énergie controversée au Sahara occidental occupé. Selon les médias marocains et français, une entreprise détenue en partie par la ville française de Dreux cherche des opportunités de dialogue avec le gouvernement marocain pour s'implanter au Sahara occidental occupé. Via Jedia, sa société de production d'énergie, la ville de Dreux prévoit le développement d'infrastructures de production d'énergie de sources solaires et éoliennes dans la partie sud du Sahara occidental, pays en grande partie occupé par le Maroc depuis 1975. Jedia est détenue majoritairement par la ville de Dreux, située à environ 80 km à l'ouest de Paris. En juillet 2025, le maire de Dreux, Pierre-Frédéric Billet, s'est rendu dans le territoire occupé aux côtés de Patrick Polge, PDG de Jedia. Les médias locaux de Dreux ont rapporté que cette visite visait à faire progresser les projets d'investissement de Jedia et un projet d'accord de jumelage entre Dreux et la ville de Dakhla, située dans le territoire occupé. Sur son site web, la mairie de Dreux fait référence à Dakhla comme faisant partie du Sahara marocain, un langage en contradiction directe avec les positions juridiques internationales et européennes. L'ONG Western Sahara Resource Watch a contacté la municipalité pour savoir comment ces projets peuvent être conciliés avec le droit européen et international contraignant relatif au Sahara occidental. Mais à ce jour, la municipalité de Dreux n'a pas répondu. L'ONU qualifie le Sahara occidental de territoire non autonome sans puissance administrante. La Cour internationale de justice a confirmé que le Maroc n'exerce aucune souveraineté sur ce territoire, dont le peuple sahraoui a droit à l'autodétermination. La Cour de justice de l'Union européenne, dans 10 arrêts consécutifs depuis 2015, a confirmé le statut séparé et distinct du Sahara occidental du Maroc et a statué qu'aucun accord avec le Maroc ne peut être appliqué au territoire du Sahara occidental sans le consentement du peuple sahraoui, représenté par le Front Polisario. Les projets de Jedia et de son actionnaire majoritaire semblent avoir pris forme lors d'un événement au Sénat français à l'automne 2024. À l'issue de cette réunion, le maire de Dreux, Billot, a publié sur LinkedIn le 1er décembre 2024 « Merci à Salah Bourdi pour ce grand et fructueux moment d'échange entre élus marocains, français et franco-marocains, attachés à l'amitié franco-marocaine au Sénat. La ville de Dreux est plus que jamais un fer de lance dans cette relation unique. Les énergies renouvelables sont une nouvelle porte d'entrée ouverte avec le groupe Jedia. » La réunion au Sénat avait eu lieu à peu près au même moment que la visite du président Emmanuel Macron à Rabat, où il a appelé à une augmentation des investissements français sur ce territoire illégalement occupé. La position de Macron n'a pas été mentionnée dans les arrêts du Conseil d'État français de janvier 2025 qui ont confirmé l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-399/22, confirmant que le Sahara occidental ne fait pas partie du Maroc. Les déclarations politiques du président Macron n'ont donc aucune valeur juridique et ne protègent pas les entreprises des risques de litige. L'ONG souligne, en tant qu'institution publique d'un État membre de l'Union européenne, la ville de Dreux et par extension sa société Jedia, qu'il détient majoritairement, a l'obligation claire d'agir conformément aux droits européens. en poursuivant des projets au Sahara occidental occupé par le biais d'accords avec le Maroc, il risque d'aller à l'encontre des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, de consolider le contrôle illégal du Maroc et de porter atteinte aux droits du peuple sahraoui à déterminer de son propre avenir. Le code noir enfin abrogé. Mieux vaut tard que jamais. Le 13 mai dernier, lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le président des députés Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire, LIOT, Laurent Panifou, demandait à François Bayrou d'enfin abroger le code noir, rappelant par là même, à la stupeur générale, ou presque, qu'il ne l'a toujours pas été. Le Premier ministre s'est immédiatement engagé à présenter devant le Parlement un texte actant son abolition. Le Code noir, une série de textes juridiques entamés en 1685 sous l'égide de Colbert, ministre de la Marine de Louis XIV, a gravé dans le marbre les pratiques esclavagistes qui avaient cours dans les colonies françaises d'Amérique et aucune des deux abolitions de l'esclavage 1794 puis 1848 n'avait entraîné son abrogation. Si l'on peut se réjouir symboliquement de la chute de ce texte odieux, ne soyons pas dupes. D'abord parce qu'il ne constitue que la première pierre du droit colonial d'exception, car l'esclavage est en fait interdit en France depuis 1315, qui a encore de beaux jours devant lui. Ensuite, parce que le code noir est l'arbre qui cache la forêt d'une actualité persistante autour des crimes esclavagistes et de leur suite, comme le rappelle l'historien Jean-François Niort, il ne faudrait pas que l'abrogation soit une façon pour le Premier ministre d'étouffer dans l'œuf la question des réparations de l'esclavage. Bicizro, éviter un déni de justice. Déployée au Rwanda dans le cadre de l'opération turquoise, l'armée française laissait à la fin du mois de juin 1994 2000 Tutsis sans protection sur les hauteurs de Bicizro. Plus d'un millier d'entre eux sont alors massacrés par les génocidaires. Le 11 décembre 2024, la Cour d'appel de Paris a confirmé le non-lieu prononcé dans ce dossier. Une décision contestée devant la Cour de cassation, tant elle s'apparente à un déni de justice. Dans la matinée du 27 juin 1994, les hommes du capitaine de frégate Marin Gillier observent le départ d'hommes armés encadrés par des militaires des forces armées rwandaises, les FAR, puis l'attaque qu'ils mènent à Bicizro. Dans son compte-rendu à son supérieur, le colonel Rosier, chef des forces spéciales de Turquoise, Gillier parle de combat et non de massacre. Au début de l'après-midi, une patrouille commandée par le lieutenant-colonel Duval se rend à Bicizro où elle est stoppée par une centaine de Tutsis dans un état de dénuement extrême, certains blessés. Bien qu'ils disent être au total 2000 attaqués chaque jour, Duval les abandonne sans protection en leur conseillant de retourner se cacher dans l'attente du retour des Français dans 2 ou 3 jours. Le soir, Duval rencontre au colonel Rosier et demande à retourner à Bicizro le lendemain. Dans la soirée du 27 juin, le général Lafourcade, commandant l'opération turquoise, envoie un fax à l'amiral Langsad, chef d'état-major des armées, dans lequel il décrit les Tutsis de Bicizro comme des Tutsis ayant fui les massacres d'avril et cherchant à se défendre sur place, et non comme des éléments infiltrés du Front patriotique rwandais, la rébellion à majorité Tutsi qui est en train de libérer le pays de l'emprise des génocidaires. Lafourcade mentionne le risque de ne rien faire et laisser se perpétrer des massacres dans notre dos. Pourtant, durant 3 jours, rien n'est fait pour secourir ces Tutsis. Le 30 juin, les commandos de marine de Gillier traversent Bicizro sans instruction de porter secours aux Tutsis. interpellé par des journalistes, l'élément de queue de ce détachement prend l'initiative d'aller à la rencontre des survivants. Cette fois, les militaires français, pourtant pas plus nombreux que ceux du détachement Duval le 27 juin, restent avec les Tutsis. Revenu sur les lieux, Gilly avertit le colonel Rosier qui déclenche les secours. La cour d'appel refuse d'envisager le rôle évident de Paris. Ouverte en février 2005, l'instruction visait à déterminer si des militaires français se sont rendus coupables de complicité de génocide par abstention en violation d'un devoir d'agir. En effet, bien que mandatés par l'Organisation des Nations Unies pour mettre fin au massacre, si besoin en utilisant la force et informés de la poursuite du génocide à Bicizreau, les militaires français n'ont pas porté secours aux Tutsis. Dans son audience du 19 septembre 2024, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, présidée par Éric Alphen, a examiné deux appels distincts. Le premier avait pour objet le non-lieu prononcé par les juges d'instruction, il sera analysé plus tard. Le second appel concernait la demande des plaignants rwandais et des associations parties civiles à leur côté, la Ligue des droits de l'homme, la Fédération internationale des droits humains et survie, de prolonger l'enquête pour dégager les responsabilités éventuelles de l'état-major, des armées et de l'état-major particulier du président Mitterrand dans l'abandon des Tutsis de Bicizreau. De nombreux éléments contenus dans le dossier et dans le rapport Duclerc démontrent en effet que tous deux intervenaient dans la conduite des opérations de la force turquoise. Dans son arrêt du 11 décembre 2024, la Cour d'appel a rejeté cette demande. Elle a estimé que les auditions demandées en 2017 de l'amiral Langsade, chef d'état-major des armées en 1994, et du général Quesnot, chef d'état-major particulier de Mitterrand, avaient déjà été refusées par les juges d'instruction. Les plaignants, la LDH, FIDH et Survie, avaient à l'époque fait appel de cette décision, mais le président de la Chambre de l'instruction, Philippe Dary, avait filtré cet appel, empêchant l'examen des arguments des parties civiles par une collégialité de trois magistrats. En fondant son refus d'ordonner les auditions de Langsade et de Quesnot sur les précédentes décisions des juges d'instruction et du président Dary, la Cour d'appel écarte définitivement les arguments des parties civiles sans même qu'ils aient pu être analysés de manière contradictoire devant une juridiction collégiale. La Cour d'appel rejette par ailleurs la demande de verser au dossier des documents militaires français couverts par le secret défense dont la déclassification avait été refusée en 2008. Cette nouvelle demande était justifiée par la publication du rapport Declerc en mars 2021, versé au dossier sur l'insistance des parties civiles. Celle-ci soulignait que la commission Declerc avait accès à tous les documents militaires classifiés, y compris à ceux refusés aux magistrats instructeurs. Par exemple, ceux intitulés « Conduite turquoise O », dont on peut penser qu'ils concernent les instructions données par Paris au général Lafourcade. En refusant de tenter d'ouvrir ces documents, la Cour d'appel entérine le fait que des documents classifiés soient communiqués au bon vouloir présidentiel à des historiens, mais pas à la justice, donnant ainsi dans la patrie de Montesquieu une bien piètre image de l'autorité judiciaire. La Cour d'appel rejette aussi la demande d'audition de Vincent Duclerc, estimant qu'entendu, il n'aurait fait que confirmer le contenu de son rapport. Les propos tenus par l'historien dans un ouvrage ultérieur intitulé « La France face au génocide des Tutsis » édition Talandier 2024, permettent d'en douter. On y lit en effet, dans le chapitre sur Bicizreau, « La France avait bien tous les moyens et les informations pour agir dès le 27 juin et réaliser une authentique mission militaire d'intervention contre des génocidaires et au secours des victimes. » Qu'est-ce qui l'en a empêché ? Vincent Duclerc répond « Le 27 juin, au soir, le général Lafourcade identifie les réfugiés de Bicizreau comme des Tutsis menacés. Leur protection immédiate n'est pas ordonnée. Pour le général Sartre, commandant du secteur pendant turquoise, Paris a tranché malgré les informations de terrain et l'analyse du général Lafourcade, obligeant les militaires à endosser les dramatiques conséquences de décisions dont ils ne sont pas responsables. Qui ?» À Paris, a tranché. Les juges d'instruction, puis la cour d'appel, ont refusé de chercher la réponse à cette question. Mais lorsqu'il s'agit d'exonérer pénalement le général Lafourcade et ses adjoints, les magistrats d'appel jugent qu'il n'appartenait pas aux militaires présents sur place d'agir sans avoir reçu un ordre précis émanant de leur hiérarchie, c'est-à-dire du ministère de la Défense, et le fait que cet ordre ne soit pas venu s'il peut engager la responsabilité historique de la France au sens où la commission Duclerc l'a mise en évidence, ne permet pas de mettre en œuvre la responsabilité pénale des témoins assistés présents sur place. La Cour d'appel reconnaît donc que des responsabilités sont bel et bien à chercher à Paris, tout en refusant que la justice française le fasse. La Cour d'appel a par ailleurs confirmé le non-lieu en faveur de Jean-Claude Lafourcade, Jacques Rosier, Marin Gillier et Jean-Rémy Duval, quatre officiers dont les parties civiles avaient demandé le renvoi devant la cour d'assises. Elle a examiné la possibilité que ces officiers se soient rendus complices du génocide à travers leur abstention de secourir les Tutsis de Bizerot, cette abstention constituant une violation de leur devoir d'agir découlant du mandat reçu des Nations Unies. Afin de déterminer si cette complicité de génocide était avérée, les magistrats ont estimé indispensable de rechercher quelle a été la connaissance, jour après jour, de la situation réelle qu'ont pu avoir ces quatre officiers, les moyens dont ils disposaient pour s'opposer à la commission du génocide en cours, pour conclure éventuellement sur l'élément intentionnel, à savoir la conscience de s'associer aux auteurs du génocide. La Cour d'appel considère que ni Gillier, ni Duval, ni Lafourcade n'avaient des moyens suffisants pour agir. Pour ce qui est de la connaissance du génocide, les magistrats soulignent que le contenu des messages de Marin Gillier, en particulier celui du 27 juin, n'évoque pas un génocide, mais parle de combattants armés en action. Concernant Jean-Claude Lafourcade, les magistrats notent que son fax du 27 juin évoquait deux hypothèses, ce qui tend à montrer qu'il n'avait ce jour-là aucune certitude sur ce qui était effectivement en train de se passer à Bizerot, même s'il était personnellement d'avis qu'il pouvait s'agir de massacres de Tutsis. Des assertions toutes contestables, mais attendues. C'est lorsqu'il s'agit de Duval que les magistrats usent d'une argumentation qui laisse le lecteur interloqué. Le fait que Jean-Rémy Duval ait constaté la présence le 27 juin en début d'après-midi de Tutsi dans un grand état de dénuement et évoqué une situation d'urgence qui débouchera sur une extermination, s'il était sans nul doute de nature à inquiéter et à agir, montrait que l'extermination en question n'était pas encore en cours à ce moment-là. Il était donc trop tôt pour protéger ces Tutsis. Le seul officier français que la Cour d'appel paraît considérer comme ayant eu à la fois la connaissance de la situation et les moyens d'agir est Rosier. Les magistrats s'empressent d'ajouter que si l'on peut regretter que Jacques Rosier ait fait le choix de ne pas intervenir comme il aurait pu peut-être le faire, son comportement ne semble pas pour autant pouvoir être qualifié de complicité de génocide. Dans un raisonnement mal assuré, la Cour estime qu'il y a lieu de considérer que plutôt qu'une abstention approbatrice, Rosier a commis une erreur d'appréciation qui l'a vraisemblablement conduit à traiter l'information d'une mauvaise manière, lui-même ayant admis un manque de réactivité qui, pour les magistrats, pourrait peut-être s'analyser en une abstention de porter secours, infraction prescrite, mais pas en complicité de génocide. Une abstention volontaire de porter secours dans un contexte de génocide, et alors qu'on est mandaté pour mettre fin au massacre, cela constitue, affirment les parties civiles, en se fondant sur la jurisprudence pénale internationale et le droit français, une complicité de génocide. Prochaine étape, la Cour de cassation. Elle dira si, comme le soutient la Cour d'appel de Paris, il faut que l'abstention soit intervenue de manière consciente afin d'aider ou d'assister les auteurs du génocide, c'est-à-dire dans l'intention de s'associer à leur comportement, ou bien si la raison de l'abstention d'agir des officiers français est indifférente pour qualifier leur acte. Dans l'affaire Maurice Papon, cet ancien secrétaire général de la préfecture de la Gironde responsable de la déportation de Juifs pendant l'occupation, La Cour de cassation avait estimé qu'il n'était pas nécessaire que le complice de crimes contre l'humanité ait adhéré à la politique d'hégémonie idéologique des auteurs principaux.
أنا صوت المنسوب